Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile.
Je ne connaissais pas la version de la superbe chanson de Bachung par le groupe Trio. Passage obligé pour raconter les petites entreprises confrontées aux conséquences de la pandémie de Covid. On s'attendait au pire, entre fermeture et ralentissement économique, entre reprise et coup de frein. Et pourtant, les entreprises ne connaissent pas la crise, enfin pas toutes, car certaines commencent à en ressentir durement les effets lors d'un passage aventureux devant le tribunal de commerce. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser à la remontée récente du chiffre des défaillances d'entreprises en France et essayer de comprendre ce qu'il nous dit de la santé des sociétés. Et on parle ici de celles qui ne font pas partie du CAC 40 ou même du SBF 120.
Écoutez, j'ai tout perdu dans cet incendie. Mon bois, mes machines, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
Un petit quelque chose pour arrêter la procédure. Quelque chose même de symbolique. Un geste.
Bien sûr.
Monsieur Lancy.
Voilà. Allez.
Monsieur Lancy, je vous en prie.
Je vous donne pas ma chemise, hein. C'est un cadeau.
Ma petite entreprise, c'est aussi ce film de Pierre Jolivet en 1999 avec Vincent Lindon dans le rôle du dirigeant d'une petite entreprise de menuiserie. Yvan est sur le point de tout perdre. Le Covid n'y est pour rien. Son atelier a été détruit par un incendie et il se retrouve embarqué dans un micmac avec un courtier d'assurance indélicat joué par François Berléand.
Et alors, comme il est mort, t'es pas vraiment assuré.
Je suis pas vraiment assuré. Ça fait 10 ans que je suis chez toi, 50 000 balles par an. Pourquoi je serais pas assuré ?
Parce que je déclarais pas les contrats et l'argent gardé pour nous.
Répète ça.
Dès que j'ai su pour ton incendie, j'ai appelé Jean-Michel pour qu'il enregistre ton contrat au siège comme on faisait d'habitude. Et là, il était mort.
Allez, con.
Il est mort et il ne l'a pas vu venir. Le Covid non plus, qui en quelques mois a complètement chamboulé l'économie mondiale. En 2020, faut-il le rappeler, le PIB de la France a chuté de 8,3%, une récession historique. On pouvait craindre le pire pour le tissu économique et notamment ces milliers de boîtes qui du jour au lendemain se sont retrouvées privées d'activité. Mais le pire n'est jamais sûr. Et en 2020, on a assisté à un recul de près de 40% des défaillances d'entreprises, selon une étude du cabinet Altares, avec un peu plus de 32 000 défaillances, 20 000 de moins qu'un an plus tôt. Même constat pour les liquidations judiciaires qui ont diminué d'un tiers. La surmortalité liée au Covid dans les hôpitaux et les EHPAD ne s'est pas étendue aux entreprises, en tout cas à toutes les entreprises. Bonjour Nathalie Silbert.
Bonjour Pierrick Fay.
Vous êtes journaliste au service France aux Échos en charge des questions de conjoncture. C'est pas un sujet très drôle pour aborder l'été, mais on va parler ensemble des défaillances d'entreprises, de l'impact de la crise sanitaire. Mais d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'il faut entendre par défaillance d'entreprise.
Derrière une défaillance d'entreprise, vous avez une entreprise qui tout à coup se trouve confrontée à un problème d'échéance. Elle ne peut pas payer une échéance parce qu'elle a un problème de trésorerie, par exemple. Et donc, elle se met en cessation de paiement et ensuite, ou bien un administrateur judiciaire est nommé dans ces conditions, elle est en redressement judiciaire, ou bien le dirigeant de l'entreprise reste aux manettes et l'entreprise est placée en procédure de sauvegarde, ce qui permet de geler toute demande des créanciers pendant un moment, le temps de voir est-ce qu'on peut ou non restructurer la dette, l'entreprise. Et alors, naturellement, il y a un troisième scénario qui est le pire scénario, qui est en revanche la liquidation.
Oui, la liquidation, c'est la fin de l'entreprise. Et effectivement, Et c'est bien de le préciser, la défaillance dans l'entreprise ne signifie pas la fin de l'entreprise à tous les coups.
Absolument, une entreprise en sauvegarde, en procédure de sauvegarde par exemple, peut tout à fait rebondir ensuite s'il y a une restructuration de la dette. Le redressement judiciaire aussi, vous pouvez avoir des cessions d'actifs et une reprise par une autre société. Enfin, il y a de multiples configurations, mais ce n'est pas la fin de l'entreprise.
Oui, c'est important de le signaler, hein, parce que si on parle de ce sujet dans la story des Échos, c'est que depuis quelques semaines, on commence à voir remonter le niveau des défaillances d'entreprises. Il y en a eu presque 15% de plus au deuxième trimestre de cette année qu'à la même période de 2020 en pleine crise sanitaire. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
On peut regarder le verre à moitié vide, mais je crois qu'avant toute chose, il faut quand même voir le verre à moitié plein, à savoir le fait qu'on reste sur des niveaux quand même très très bas de défaillances. Et pour une raison très simple, c'est que les dispositifs d'urgence mis en place par les pouvoirs publics dès que la crise du Covid s'est manifestée ont permis aux entreprises de tenir bon sur le plan financier. Donc, on est à des niveaux extrêmement bas en réalité.
C'est vrai qu'il suffit de regarder les données d'Altares. Il y avait en 2018 comme en 2019 autour de 55 000 défaillances d'entreprises contre moins de 30 000 à la fin du premier trimestre 2021. Ce sont des chiffres sur un an glissant. Nathalie, pourquoi y en a-t-il aussi peu alors que la France a subi de plein fouet l'arrêt brutal de son économie courant 2020?
Le gouvernement a proposé des prêts garantis aux entreprises qui, avec la possibilité de rembourser jusqu'en 2026, donc il va y avoir un étalement du remboursement de cette dette qui fait qu'aujourd'hui, ça leur a donné de la trésorerie et donc une bouffée d'oxygène. À côté de ça, toutes les mesures de chômage partiel, il y a eu des suspensions aussi de paiement des cotisations sociales, font que les entreprises ont eu de l'oxygène pour résister pendant la crise et pour pouvoir faire face aux trous d'air d'activité.
Notre loyer.
Ça, c'est votre loyer.
Voilà, notre
comptez
loyer
chaque sou. Avoir l'œil sur la moindre dépense. Avec l'épidémie, ça, cet éducateur canin et cet libraire viennent de passer une année plongée dans leur compte. Entre les aides de l'État, les prêts et les pertes, sortez votre calculette.
Les aides de l'État, roue de secours de l'économie française et des entreprises, on en a déjà parlé dans la story. Roue de secours ou bouée de sauvetage d'ailleurs, si l'on en croit les chiffres des défaillances. Mais l'Ordre des experts comptables a aussi publié récemment une étude intéressante sur l'état de santé des PME. Et surprise, ça ne va pas si mal.
Les PME ont plutôt bien traversé la crise sanitaire, étonnamment.
Marion Kindermans est journaliste au service région PME des Échos.
Rappelez-vous, il y a un an et demi maintenant, on parlait de mur de la dette, de tsunami, de faillite, de vagues de dépôt de bilan. Et force est de constater franchement que ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Et comme vous le disiez, Pierrick, les experts comptables ont épluché en fait les liasses fiscales des entreprises 2020. Et ils en ont ressorti la réalité que la santé financière des PME est plutôt bonne. Même de manière très surprenante, le résultat net a augmenté en moyenne de 2%. Alors, c'est évidemment une moyenne, c'est pas le cas pour tous les secteurs, mais globalement, ils ont même améliorer leur rentabilité, ce qui a surpris d'ailleurs beaucoup de monde, même s'il faut le souligner, le chiffre d'affaires est globalement en recul de 6%, mais ce qui n'est pas non plus une catastrophe.
Oui, compte tenu d'une forte baisse du PIB, hein, d'un pays bloqué pendant plusieurs mois, on a tout de même une forte diversité selon les secteurs, vous le disiez, mais même là, les dépôts de bilan sont minimes ?
Ben, oui, enfin globalement, il y a effectivement une grande hétérogénéité, mais ça, il faut le rappeler. Bon, les secteurs qui ont souffert de manière massive, ce sont ceux qui ont été administrativement fermés pendant plusieurs mois. Donc évidemment, hébergement et restauration, arts et spectacles, monde de la culture et surtout salons professionnels et congrès. Et ces trois secteurs, globalement, toujours d'après les experts comptables, ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 30 à 50% tout de même. Mais d'autres se portent bien mieux, comme l'agroalimentaire, on l'a dit plusieurs fois, le numérique, digital, globalement, et la santé. Mais les dépôts de bilan n'ont pas du tout été massifs. Et même certains secteurs se sont rattrapés au moment des déconfinements. C'est le cas, par exemple, du tourisme l'été dernier, qui avait fait une très, très belle saison. Et bien sûr, les aides ont évidemment joué le rôle d'amortisseur, voire plus. On peut citer le cas, par exemple, des restaurants qui ont pu cumuler les aides, notamment le fonds de solidarité, mais aussi les reports de charges sociales fiscales, reports de loyers souvent. Ils ont cumulé ces aides avec les ventes à emporter qui, elles, ne rentraient pas dans le calcul des fonds de solidarité. Ce qui explique une certaine façon de se relever, finalement, d'avoir une bonne situation financière. Et on a tous entendu parler, plus ou moins, de restaurateurs notamment, qui finalement s'en sortaient presque mieux qu'avant le Covid, même s'il faut évidemment pas généraliser cet effet d'aubaine, mais c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup entendu dire ces derniers mois.
Ouais, ces aides ont permis aux entreprises de traverser la tempête, mais ça n'explique pas tout. C'est aussi le symbole d'un tissu économique qui était plutôt bien portant avant la crise.
Ben oui, parce que globalement, en fait, la situation des entreprises s'était nettement améliorée en 2019. Donc, on peut dire qu'en fait, les PME, elles ont abordé le choc du Covid plutôt bien armées. Elles avaient amélioré leur structure financière. Elles avaient renforcé leurs fonds propres. L'endettement s'était stabilisé. Et elles avaient en fait retrouvé quasiment leur niveau de rentabilité d'avant la crise de 2008. La Banque de France avait révélé qu'elles avaient même augmenté en 2019 leur marge de 22%. Et le signe de cette bonne santé, c'est que les défaillances avaient beaucoup baissé en 2019. Elles avaient retrouvé le niveau le plus bas depuis 10 ans. Or, le gros des procédures collectives, faut quand même le rappeler, ce sont les PME qui le forment. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elles ont entamé cette crise sanitaire plutôt déjà en forme.
On sait qu'il y a des entreprises qui vont mal. On sait qu'il y a effectivement des TPE qui vont disparaître. On en parlait avec Nathalie Silbert il y a quelques instants. Marion, on peut quand même se poser la question de la façon dont les PME vont aborder cette phase de reprise économique et la levée d'une bonne partie des jauges.
Oui, alors on a raison de rappeler que la situation est quand même compliquée pour certaines d'entre elles. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop enjoliver les choses. Mais globalement, elle souligne là vraiment tout secteur confondu, je crois. Elles ont de l'argent, elles sont dans les starting blocks, elles ont des carnets de commandes qui se remplissent. La reprise est là. Et le fait notable, c'est que d'ailleurs, les dirigeants ont retrouvé un niveau d'optimisme assez élevé, comme l'attestent les prévisions d'investissement, qui sont très, très bonnes. Ils ont vraiment des projets d'investissement. Alors, malheureusement, le revers de la médaille, c'est que cette reprise est freinée par deux événements. Le premier, c'est la grande difficulté à recruter, la tension sur le marché du travail. C'est vraiment l'élément de préoccupation numéro un. La Banque de France l'a rappelé il y a quelques jours encore, en disant, enfin selon ses études, 44% des entreprises interrogées disent avoir des difficultés de recrutement. Et donc, elles sont confrontées, en fait, elles ont toutes, plus ou moins, réduit souvent leur activité pendant la crise. Elles n'avaient pas forcément renouvelé les salariés qui avaient pu partir en pré-retraite ou partir pour d'autres raisons, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, de salariés qui ont décidé peut-être de changer de métier, de se réorienter. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements et elles n'ont pas remplacé ce personnel. Elles ont fait appel beaucoup à l'activité partielle. Et elles ont d'énormes besoins d'embauche et de recrutement actuellement. Mais évidemment, comme tout le monde cherche en même temps et tout le monde est pressé, il y a une grosse difficulté à trouver les talents. Et la deuxième difficulté, qui est vraiment un caillou, j'allais dire, dans les chaussures des PME, qui est très handicapante aussi, c'est les difficultés à s'approvisionner en matières premières et aussi en pièces industrielles, avec des prix de matières premières qui sont en train de flamber. Et on voit donc des entreprises qui reprenaient l'activité, qui remplissaient leurs canets de commandes, qui étaient en plein rebond et qui se retrouvent obligées de refuser en fait des contrats, voire même de les interrompre, quitte à payer des pénalités parce qu'elles ne peuvent pas faire face. Elles sont obligées de freiner certaines lignes de production ou certaines activités. Et ça, c'est vraiment dramatique.
Nathalie Silbert, on l'a entendu avec Marion Kindermans, les PME abordent la reprise économique avec un mélange de confiance et d'incertitude. On a parlé de ces aides de l'État. Il n'y a pas eu d'explosion du nombre de défaillances d'entreprises depuis un an et demi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et c'est un peu comme avec le Covid, ce sont les plus fragiles qui disparaissent.
Oui, ce sont ce qu'on appelle les TPE avec moins de 6 salariés. Ce sont des entreprises justement qui sont un peu passées sous le radar des aides et qui, avec la reprise de l'activité, n'ont pas pu résister. Elles peuvent encore demander des prêts garantis de l'État d'ici la fin de l'année pour celles qui le souhaitent, mais pour beaucoup, finalement, cette période a été une période de fragilisation très forte. Et en fait, on voit que les liquidations, d'ailleurs, concernent essentiellement ces petites TPE. En fait, 80% des liquidations, d'après les chiffres d'Altares, concernent ces TPE. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des défaillances enregistrées, on n'a qu'une seule entreprise de plus de 1000 salariés. On voit bien qu'on a un grand décalage entre les petites entreprises et les grosses entreprises qui ont eu beaucoup plus recours à tous les dispositifs d'urgence de l'État et qui leur a donné des armes pour faire face à la crise.
Au deuxième trimestre, les TPE ont même représenté 9 liquidations sur 10, avec ce chiffre qui fait mal désormais. Pour les TPE, 79% des jugements mènent directement à la liquidation de l'entreprise, un niveau jamais atteint en 20 ans, un niveau qui marque l'épuisement des petits patrons, constate la société Altares. Il prouve que ceux qui font aujourd'hui leur déclaration de cessation de paiement n'en peuvent plus et ne cherchent même plus à obtenir un plan de continuation d'activité. Les secteurs les plus touchés sont dans le BTP, les transports, mais aussi l'agriculture. On parle d'entreprises de petite taille, ce qui n'empêche pas que derrière, Nathalie, il y a aussi et surtout des gens qui perdent leur travail.
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on va avoir une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, ces petites TPE, par rapport au tissu industriel, ce n'est pas forcément des choses qui vont être très, très visibles parce que c'est des toutes petites structures. En revanche, ça peut finir par faire beaucoup de monde qui se retrouve au chômage du fait de ces défaillances. Néanmoins, les chiffres, pour l'instant, restent extrêmement encourageant au sens où le nombre d'emplois menacés est en baisse de 55% si on regarde par rapport à fin juin 2020. Donc, on voit qu'il y a une remontée des défaillances par rapport à l'an dernier où tout avait été gelé par la pandémie. Mais c'est une remontée qui est assez douce, qui est progressive et qui laisse quand même le nombre total de défaillances à un niveau extrêmement bas.
À fin juin, moins de 20 000 emplois étaient menacés contre plus de 43 000 un an plus tôt, selon le cabinet d'études Altares.
Dans tous les secteurs qui, comme la culture, l'hôtellerie, la restauration, le sport, le tourisme, ont le plus souffert, chacun reconnaît que les plans de soutien spécifiques que nous avons mis en œuvre ont permis d'empêcher les drames humains, les faillites, et d'envisager une reprise sereine.
Emmanuel Macron s'est adressé aux Français le 12 juillet dernier. On ne va pas revenir sur le pass sanitaire qui agite les réseaux sociaux. J'ai sélectionné ce passage de l'intervention du président lorsqu'il évoque la souffrance de certains métiers, les drames humains évités grâce à la politique du quoi qu'il en coûte. C'est ce que montrent les chiffres de défaillance qu'on a évoqués avec Nathalie. Mais alors que la pandémie de Covid s'attarde au rythme ralenti de la vaccination en France et en Europe, le moral des chefs d'entreprise élaboré par l'INSEE continue de remonter, au point d'atteindre en juin son plus haut niveau depuis 2007. Un effet de la levée des restrictions et des vacances qui approchent sans doute. Mais tous ne partagent pas cet optimisme. On l'a dit, les très petites entreprises sont celles qui souffrent le plus. Et j'ai eu envie de recueillir leurs sentiments dans la story. J'ai appelé Marc Sanchez, c'est le secrétaire national du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE.
Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrick Fay des Échos. J'ai rendez-vous téléphonique avec Marc Sanchez.
Oui, avec Monsieur Sanchez. Un instant. Hein.
Merci beaucoup.
Allô, oui.
Oui, rebonjour, Monsieur Sanchez.
Rebonjour.
Merci beaucoup de m'accorder quelques minutes pour parler de ce contexte sanitaire qui reste toujours difficile pour les chefs d'entreprise, en tout cas pour les plus petits.
De plus en plus, oui.
Voilà, c'est ça dont on va parler avec vous. Et le point de départ, c'est les chiffres des défaillances d'entreprise qui sont sortis il y a quelques semaines.
Oui, et puis qui sont confirmés d'ailleurs par la Banque de France et le baromètre du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui montre quand même qu'il y a 28% d'augmentation des cessations d'activité pour les TPE sur le premier semestre 2021.
Et Marc Sanchez, on parlait justement du moral des chefs d'entreprise qui étaient au plus haut en juin, selon l'INSEE. Qu'en est-il de vos adhérents ?
Bah écoutez, par rapport à nos adhérents, on n'est pas dans la même logique. C'est-à-dire que si on devait différencier aujourd'hui les tailles d'entreprise, le moral des dirigeants de TPE, c'est-à-dire essentiellement les entreprises de moins de 20 salariés, il est plutôt en berne. Et depuis l'allocution d'ailleurs du président de la République, il a bien évidemment continué à être dans une situation très très négative. Donc beaucoup sont optimistes en fait pour essayer de faire perdurer leur activité et leur emploi et leur outil de travail. Mais malheureusement, dans le contexte actuel qui est quand même lié à une grosse incertitude sur pas mal de choses, on ne peut pas dire qu'effectivement l'optimisme soit au rendez-vous.
Il y a un sentiment de stop and go forcément dans les politiques de lutte contre la pandémie avec ce virus qui nous réserve toujours de très mauvaises surprises. C'est vraiment le plus compliqué à gérer pour les patrons de petites entreprises.
Oui, la difficulté, c'est le manque de lisibilité, mais je pense que c'est la même chose pour tout type d'entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais c'est encore plus, je dirais, un élément essentiel et déterminant dans des entreprises de petite taille et qui ont, depuis le début de l'année, des pertes de chiffre d'affaires qui oscillent tout secteur d'activité entre -20 et -30%. Sachant derrière que vous allez devoir bien évidemment payer des charges, notamment en termes de charges sociales et fiscales ou de remboursement du PGE qui va arriver bientôt en septembre pour les charges URSSAF et au mois d'avril pour le PGE, avec des chiffres d'affaires qui descendent régulièrement, c'est très compliqué effectivement de se donner des perspectives positives.
Malgré tout, la croissance repart, la consommation également. On a vu un rebond de 10% au mois de mai avec le déconfinement. Ça doit quand même commencer à se faire ressentir jusqu'au TPE, que ce soit dans le bâtiment, la restauration ou les services.
Écoutez, figurez-vous que non. Nous, dans ce qu'on constate, en tout cas, dans notre dernier baromètre, qui a d'ailleurs été conforté par les constats de l'étude d'Altares, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, le palmarès des défaillances, notamment sur entre le premier trimestre 2021 et le second, il revient justement aux entreprises du bâtiment, avec une hausse de 37% donc, des défaillances de ces entreprises-là. Avec sur ces 37%, 88% dans le cas de la construction de maisons individuelles et 30% dans le second œuvre. Donc on ne peut pas dire effectivement sur les entreprises, on va dire, de moins de 10 salariés, que cette relance économique soit au même niveau que celle décrite par le gouvernement.
Mais cette remontée des défaillances, c'est alarmant.
C'est très alarmant, oui. Surtout qu'elle n'est pas consolidée aujourd'hui par les perspectives, on va dire, de développement de chiffre d'affaires. Et ça, ça nous inquiète vraiment, d'autant que depuis le 1er juin, toutes les aides gouvernementales, hormis pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des cafés, ont été arrêtées net. Et donc aujourd'hui, en fait, ces entreprises se retrouvent très clairement sans aucune aide, sans aucune situation, on va dire, de relance très précise qui pourrait en tout cas permettre de voir l'avenir de manière un petit peu plus positive.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement de Jean Castex ?
Ce qu'on demande aujourd'hui dans un premier temps pour tous les secteurs d'activité qui ne sont pas S1, S1 bis et S2, c'est le maintien du fonds de solidarité, en tout cas sur sa partie universelle, au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Ça nous paraît essentiel pour pouvoir effectivement continuer à accompagner ces entreprises au moins jusqu'à la rentrée. Et ça se justifie d'autant plus aujourd'hui à cause justement des annonces que le président de la République a pu faire. Le deuxième élément, c'est un élément qui vise à étaler sur 2 années supplémentaires le PGE. Alors c'est vrai que c'est en magasin depuis déjà un certain temps à Bercy. Il y a des négociations qui ont été faites avec l'Union européenne sur le sujet. Malheureusement, on n'avance pas ou alors on avance de manière très sectorisée, notamment dans le cadre du plan de prévention des difficultés des entreprises qu'avaient annoncé Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti au mois de juin, qui permet justement de pouvoir étaler le PGE pour les entreprises qui rentrent dans un process de conciliation judiciaire, on va dire, réduit à 3 mois. Et là, vous pouvez effectivement étaler votre PGE, mais ça reste encore des situations assez exceptionnelles. Et nous, on souhaiterait qu'on puisse permettre cette soupape de sécurité supplémentaire sur le remboursement du PGE sur 2 années supplémentaires. Et le troisième élément, ça concerne effectivement la problématique des charges fiscales et sociales, avec la volonté que nous avons de faire en sorte que le gouvernement puisse proroger le fameux plan 12, 24, 36 mois sur les dettes URSSAF, notamment de 2020, notamment sur celles de 2021 en 2022.
Pour vous et pour les entreprises que vous représentez, le plus à craindre, ce serait une 4e vague ?
J'ai pas envie d'être très pessimiste. Je pense que globalement, on peut se prémunir d'une 4e vague avec effectivement la vaccination. Et je pense que là, l'intervention du président de la République était somme toute nécessaire. Maintenant, ce qu'on lui reproche ou ce qu'on reproche à l'action du gouvernement, c'est de ne pas avoir été plus anticipatif, parce que le variant Delta, ça fait un moment qu'on en parle. On aurait pu peut-être être concerté un peu plus en amont sur les dispositifs qui étaient prévus et pas réagir au dernier moment. Parce que aujourd'hui, ça crée d'énormes problématiques dans la gestion du personnel au niveau de ces entreprises et notamment des petites, mais aussi dans la gestion à avoir au niveau de nos clients. Et c'est très difficile, effectivement, dans un laps de temps aussi réduit, de pouvoir aborder sereinement tous ces problèmes. Donc le vrai reproche aujourd'hui qui est fait par l'ESD, mais par d'autres organisations patronales aussi sur ce sujet-là, c'est le manque d'anticipation et une concertation au final qui est souvent et généralement trop tardive.
Si les défaillances d'entreprise restent à un niveau bas par rapport à 2019, certains dirigeants ont décidé de mettre la clé sous la porte sans même passer devant le tribunal, en témoigne la hausse des radiations d'entreprise rapportée par le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce. Marc Sanchez évoquait ce chiffre en début d'interview. Nathalie Silber, je reviens vers vous. On a saisi l'inquiétude des TPE, les petites entreprises qui restent encore pénalisées par un contexte sanitaire qui demeure compliqué. Faut-il craindre une explosion des défaillances dans les prochains mois?
Pour l'instant, si on écoute la Banque de France, le taux de défaillance ne devrait pas exploser dans les prochains mois. Néanmoins, tout le monde pense que l'on devrait avoir, avec le débranchage des aides, un retour progressif au niveau habituel du nombre de faillites en France. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas une explosion des faillites, mais un retour progressif au niveau qu'on avait observé en 2019, à savoir autour de 50 000 faillites sur l'année. Alors que aujourd'hui, vous avez certains instituts comme Altares qui estiment que sur 2021, on ne sera qu'à 30 000 défaillances. Donc, on restera encore à un niveau très inférieur à la normale. Vous avez quelques voix qui sont un petit peu plus pessimistes. La CPME, par exemple, François Asselin, son président, a indiqué récemment qu'il pourrait y avoir entre 60 000 et 100 000 défaillances d'ici la fin de l'année contre 50 000 en temps normal. Mais le consensus est plus sur le fait d'un rattrapage progressif et tranquille que sur un mur de faillite qui arrive à la rentrée.
Ouais, c'est vrai que les entreprises ont beaucoup été aidées par l'État, mais à un moment, il va falloir rembourser les prêts garantis, les PGE, ce qui pourrait poser problème à l'avenir. Mais ce n'est pas la seule épée de Damoclès pour les entreprises?
Pour les entreprises, il y a le remboursement effectivement de PGE, mais il y a aussi les appels de cotisations sociales. Et le gouvernement, justement, pour l'instant, a mis en place des dispositifs de suspension. Donc la question, c'est de savoir à quel rythme les appels de cotisations sociales se feront et à quel rythme les entreprises devront rembourser.
C'est un dossier chaud suivi par le Premier ministre?
Je le pense. On est en année préélectorale et je pense que personne ne souhaite avoir un mur de faillite devant lui quelques mois avant une telle échéance. Mais pour beaucoup, l'une des problématiques qui se pose est aussi de savoir quelles sont les entreprises qu'il faut continuer à aider en cette sortie de crise, si tant est qu'on soit vraiment en sortie de crise, parce que le variant Delta peut éventuellement encore perturber la situation, et quelles sont celles qui finalement sont ce qu'on appelle un petit peu des entreprises zombies qui sont qui de toute manière ont traversé la crise grâce aux dispositifs d'urgence éventuellement, mais qui doivent peut-être être un petit peu lâchées malgré tout dans cette période.
Merci Marc Sanchez, secrétaire national du SDI, et merci à Marion Kindermans et Nathalie Silbert de la rédaction des Échos pour ce décryptage de la remontée du taux de défaillance des entreprises en France. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour suivre les décryptages et les analyses de la rédaction sur la conjoncture économique et sur l'actualité des PME et TPE, rendez-vous sur leséchos.fr.